SOS Forêt à Fontainebleau, une émission de Radio Zinzine. Nous étions plus d'une centaine à participer à une balade dans la forêt de Fontainebleau, organisée le 26 octobre 2019 par le réseau SOS Forêt. Cette promenade, sous un magnifique soleil, clôturait 4 jours de rencontres et de débats dans la région parisienne. D'abord les assises nationales de SOS Forêt, les 23 et 24 octobre au domaine de Villarceau dans le Val d'Oise, et ensuite une réunion publique le soir du 25 octobre aux Bourses du Travail à Paris. Dans cette émission, nous écouterons 3 membres de l'intersyndicale à l'Office national des forêts, et ensuite Mathilde Panot, députée de la France insoumise, qui est à l'origine de la mise en place d'une commission d'enquête citoyenne et parlementaire. Cette commission d'enquête a comme objectif de préparer un projet de loi sur les forêts en France. Écoutons d'abord Michel Benard, syndicaliste à la CGT Forêt, et ensuite Philippe Canal, du syndicat Snupfen et porte-parole de l'intersyndicale à l'ONF.
Donc c'est une forêt qui est très facile d'accès pour les promeneurs. D'ailleurs, on pourrait dire que la forêt de Fontainebleau, c'est un grand terrain de jeu. Mais il y a des bonnes utilisations et d'autres moins bonnes. Par exemple, dans la forêt de Fontainebleau, il y a un golf. Est-ce que c'est bien d'avoir un golf dans une forêt domaniale? Il y a également des terrains militaires d'exercice. Vous noterez qu'on est dans des peuplements diversifiés avec des feuillus, des chênes, des hêtres, des robiniers, des... Il y a un certain nombre d'essences, y compris des résineux, des pins sylvestres et d'autres essences. Et on n'est pratiquement que sur du sable. Si vous sortez du goudron, c'est du sable. Parce qu'autrefois, c'était la mer qui était ici. Et donc, on a par endroit jusqu'à 50 mètres d'épaisseur de sable. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones de cette forêt qui sont complètement déshydratées, que les arbres doivent rechercher et conserver l'eau qui tombe du ciel. Voilà, c'est une spécificité. Donc, vous ne vous salirez pas trop les pieds parce que le sable, ça colle moins que le limon ou l'argile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des parties de la forêt, notamment en bordure de Seine, où vous avez des limons plus argileux. Voilà, tu voulais dire quelque chose?
Donc bonjour à tous, cette journée donc est organisée à l'initiative du collectif SOS Forêt, donc qui a été dit, qui regroupe à travers toute la France des associations, des citoyens et des syndicats de forestiers sur un sujet donné, la protection des forêts et en particulier des forêts publiques, mais de toutes les forêts. Donc deux sujets principaux. Le phénomène d'industrialisation des forêts globalement sur notre pays, l'industrialisation, pour faire simple, ce serait quand même une très fâcheuse tendance à vouloir adapter, transformer les forêts pour les demandes de l'industrie, alors que c'est bien le contraire qui doit se passer, c'est à l'industrie à s'adapter à ce que la forêt peut donner dans l'intérêt général. Voilà l'industrialisation. Et le deuxième sujet, donc, c'est la privatisation en cours de la gestion des forêts publiques au travers donc de ce qui se passe à l'Office national des forêts qui est en attente d'arbitrages gouvernementaux dans la période pour savoir ce que le gouvernement compte en faire, à savoir soit une entreprise de type privé qui réfléchit son action par rapport à son intérêt financier propre pour sauver sa peau par défaut de financement, soit de continuer dans un esprit de service public. Alors l'ONF fait beaucoup de choses et on peut en critiquer une certaine. Pour autant, il y a un bilan depuis des siècles qu'il y a un service public forestier. Les eaux et forêts avant l'ONF, il y a quand même à travers le pays des résultats que les citoyens apprécient, des forêts ouvertes au public et, je redis encore, des choses à améliorer. Donc un service public qui réfléchit son action par rapport à les effets que ça va avoir autour de lui, pour la qualité de vie, pour l'environnement des citoyens, pour la filière bois également, c'est 400 000 emplois, ça existe aussi, c'est aussi du social, pour protéger l'environnement, à savoir l'eau, le stockage du carbone, la biodiversité, les paysages. Voilà pour toutes ces choses dans l'intérêt général. Et nous, évidemment, et le mouvement associatif, nous, on est demandeurs que l'Office national des forêts perpétue cette culture-là du service public forestier dans l'intérêt général et surtout des générations futures. Parce qu'avec le changement climatique qui, cette année, frappe très, très durement nos forêts en France, c'est des centaines de millions d'arbres qui sont morts cet été du fait du changement climatique, des attaques de parasites favorisées par ces répétitions de sécheresse. Donc plus besoin que jamais d'un service public qui observe, qui étudie, qui essaye de trouver des solutions, et surtout au travers l'écosystème, parce qu'on reste humble. La devise, les fondamentaux du métier de forestier, c'est observer la nature et à la limite hâter son œuvre, mais d'abord observer et limiter. L'écosystème apportera des solutions au changement climatique pour peu qu'on lui laisse le temps de s'exprimer et qu'on ne bascule pas dans une sylviculture industrielle à seul but de production de bois, de production d'énergie, au détriment des fonctions environnementales et sociales, ce qui serait tout à fait le contraire de ce qu'il faut faire par rapport au changement climatique. Donc aujourd'hui, partout dans le pays, des collectifs de citoyens, d'associations, de forestiers organisent des actions, se réunissent pour alerter, pour témoigner. Voilà, ces collectifs de citoyens, dans la période, le but, c'est aussi que ça s'exprime à travers une proposition de loi citoyenne, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure avec Madame Panot, députée, et pour que ce soit la voix de ceux qu'on n'entend jamais, les citoyens de la base, les associations, alors qu'aujourd'hui s'exprime le travail des lobbying plutôt de l'industrie pour définir la politique forestière, alors que la forêt, c'est le bien commun. Ces services bénéficient à l'ensemble des citoyens, et c'est bien pour ça qu'ils relèvent de la responsabilité de tous les citoyens de la défendre. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bonne marche à tous.
Tournons maintenant vers un forestier à l'ONF qui travaille dans la forêt de Fontainebleau. Ici, c'est vraiment une forêt très particulière parce que c'est déjà une forêt très très grande et très près de Paris. Donc en quelque sorte, bon, je n'aime pas trop le mot, mais c'est une certaine forme de vitrine de la forêt pour une population urbaine. Donc il y a énormément de visites ici, toute l'année.
Oui, alors ici on estime à peu près entre 10 et 15 millions de visites par an. Alors qui sont les visiteurs de la forêt? Bon, il y a évidemment, je veux dire, les gens qui habitent Fontainebleau, Avon et les villages alentours, mais vous avez aussi beaucoup de Parisiens. Ils viennent plus au nord du massif, parce que c'est la première sortie après l'autoroute. Donc forcément, pour eux, venir le week-end, plutôt le dimanche, hein, c'est plutôt le dimanche qu'ils viennent, eh bien c'est se ressourcer gratuitement. Voilà. Donc ça reste quand même un endroit très privilégié pour beaucoup de franciliens. Bon, il y a d'autres forêts, que Fontainebleau, mais à Fontainebleau, je pense qu'on peut trouver des paysages bien différents et venir tous les week-ends de l'année et faire une marche différente chaque week-end.
On peut rappeler un tout petit peu l'histoire un peu de la création de ce qui est un peu une première au monde, apparemment. Le fait qu'il y a des protections, enfin, c'est toute une approche qui est un peu comme des parcs ou des réserves, mais qui c'était très tôt, hein, c'était dans le 19e siècle.
Exactement. Alors au départ, ce ne sont pas les forestiers qui ont voulu protéger la forêt. Si on prend, à Barbizon, ce sont les peintres. Parce que les peintres ne voulaient pas, continuer à faire seulement des portraits de personnes. Ils voulaient faire des paysages. Et bien pour protéger, ces magnifiques paysages, ils ont voulu conserver des modèles. Et sur Barbizon, ils ont empêché, l'exploitation à outrance, de la forêt, de façon à avoir de très beaux arbres, de très vieux arbres, et puis d'avoir de très beaux modèles, tout simplement. Donc, à vrai dire, au départ, c'est venu de la part d'artistes, voilà, les impressionnistes, les autres. Et grâce à eux, je veux dire, une partie de la forêt a été protégée. Et puis après, bien, d'autres ont enchaîné. Un peu comme nous aujourd'hui, eh bien, on essaye de protéger, je veux dire, ce massif forestier.
Mais ce qui est frappant avec la crise dans laquelle se trouve l'ONF, en quelque sorte, parce que c'est un organisme qui doit, soi-disant, être plus ou moins comptable, d'être autonome économiquement et de chercher des revenus, un certain soutien de l'État, mais qui se réduit de plus en plus, et donc des pressions sur le personnel, etc. Et ici, on voit... on appelle ça souvent des aménités, mais des services de la forêt autres que la production de bois, donc ressourcement, comme vous avez dit, pour les citoyens. Or, c'est toujours pénible de vouloir calculer en monétaire qu'est-ce que ça vaut, mais en fait, ce n'est pas du tout pris en compte, quelque part, dans les chiffres de l'ONF. Quoi.
Oui, la forêt rend énormément de services à la population, à la société, mais ces services-là ne sont pas pris en compte. Si on prend, par exemple, pour l'eau, eh bien, la forêt, purifie l'eau. Et ça, quelque part, ce n'est pas toujours pris en compte. La forêt apporte, des moments récréatifs, à une population. Et ça, quelque part, ce n'est pas pris en compte. Ce que l'on voit surtout, c'est la coupe du bois. Si on voit les résultats de la chasse. Alors, un petit mot sur la chasse. C'est quelque chose aussi d'important, la chasse. Un peu de façon provocatrice, mais sans la chasse, il n'y aurait plus de forêt. Donc, il faut continuer.
Il y a beaucoup de gibier.
Il y a beaucoup de gibier. Donc, si on veut protéger la forêt, il faut savoir réguler les populations. Ça, je le dis, je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais c'est la vérité, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, la forêt rend énormément de services et ce n'est pas pris en compte. L'État ne le prend pas en compte. Il voit surtout, la vente du bois, la production de bois, et alors que c'est tout un tas d'autres choses qui devraient être prises en compte.
Oui. Alors, moi, j'ai entendu que dans l'Île-de-France, l'ONF... a décidé d'adopter quelque chose que n'est pas du tout forcément adopté ailleurs, c'est la futaie irrégulière, parce qu'il y a eu beaucoup de protestations par rapport à des coupes un peu brutales, enfin des coupes rases, etc. Et donc, vous confirmez que là, c'est une décision qui couvre un peu toutes les forêts de l'Île-de-France, c'est ça ?
Je ne pourrais pas parler pour l'ensemble des forêts d'Île-de-France. C'est vrai que c'est mis en place, par exemple pour Fontainebleau. C'est quelque chose qui... Enfin, les coupes heurtent. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une coupe rase, eh bien, les populations n'apprécient pas du tout. Donc c'est vrai que l'ONF était obligé de s'adapter, à la demande du public. Et cette futaie irrégulière répond en partie... à cette demande du public. Après, c'est un peu plus compliqué à mettre en place et il y a quand même beaucoup de forestiers qui doutent.
Mais à ma connaissance, c'est notamment des gens comme Paul Sylvain, mais le calcul n'est pas qu'il y a moins de bois à sortir avec ce système-là. C'est plus peut-être complexe, compliqué, mais en fait, la production de bois est, certains disent, même supérieure à une série de coupes ou de plantations, quoi.
Oui, là, sur ces points-là, c'est un peu plus compliqué, à exposer. Il y a quand même des forestiers qui vont dans ce sens pour la futaie régulière parce que ils voient quand même que c'est aussi une façon d'avoir une manière plus douce d'exploiter la forêt.
De maintenir une couverture permanente.
Maintenir une couverture végétale. Et puis c'est pour le public, c'est vrai que c'est quand même moins choquant. Après c'est aussi des coûts supplémentaires, parce que, évidemment, ça faut le prendre en compte. Le problème, c'est que l'État se désengage sur beaucoup de choses. Et si l'ONF, que ce soit n'importe quel établissement, mais si l'ONF n'a plus les moyens de faire correctement son travail sur le long terme, eh bien, il fait sur le court terme. Et forcément, il y aura un impact pour les générations suivantes. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de forestiers sont un petit peu déprimés là-dessus, parce qu'ils voient que tout le travail qui a été fait depuis des générations, risque un peu d'être anéanti en quelques décennies.
Est-ce que vous avez remarqué cet été ou cette année plus d'impact dû au climat, sécheresse, canicule ?
Alors, moi, j'ai deux exemples. Bon, déjà, il y a plus de 15 ans, j'étais convaincu que de toute façon, le climat allait évoluer. Hein, changeant bien ou pas, je ne sais pas, mais évoluer. Donc évidemment, il fallait s'adapter. Donc déjà, il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire sur la forêt de Fontainebleau, eh bien, on limitait le chêne pédonculé parce qu'il était plus gourmand en eau. Et le chêne sessile vivait mieux avec moins d'eau. Donc là, les forestiers avaient déjà prévu, je veux dire, ces choses-là depuis des décennies. Alors, il y a un autre problème, c'est que il y a un manque d'eau. Donc, bon, à Fontainebleau, évidemment, comme c'est sablonneux, je veux dire, il faut que l'eau tombe régulièrement pour que les arbres soient régulièrement, je veux dire, approvisionnés en eau. Comme il y a un manque d'eau, eh bien, vous avez beaucoup de, je veux dire, de pins ou de résineux bah, qui ne tiennent pas. Et là, c'est la deuxième année consécutive où il y a un manque d'eau. Donc, ce stress hydrique, eh bien, forcément, un arbre, il peut peut-être supporter un stress hydrique sur une année, mais sur plusieurs années, ça ne marche plus. Donc forcément, eh bien, c'est un peu comme une personne. Bah, si vous essayez de vivre plus de 3 jours sans eau, c'est fini. Donc, c'est le gros problème. Après, moi, j'ai un deuxième exemple qui est beaucoup plus personnel. C'est peut-être pour ça que je suis peut-être plus touché. J'ai un étang, je veux dire, dans la Nièvre. Et... c'est un étang familial qu'on a depuis plus de 40 ans. Et cet étang, eh bien, en 89, on l'avait nettoyé, remis en eau, il n'y avait aucun souci. Et en 2003, lors de la première canicule, il avait baissé à peu près de 10 cm l'été. Le niveau, hein. Le niveau avait baissé de 10 cm. Et là, depuis 2010, chaque année, eh bien, il y a à peu près 10 cm supplémentaires chaque année.
Et
là, oui, ça baisse. Et là, cette année, il y a moins 80 cm. Donc là, pourquoi ? Parce que la rivière qui l'alimentait ne coule plus. Ensuite, eh bien, je veux dire, l'évapotranspiration a échoué. Eh bien, mon étang, eh bien, si on continue comme cela, ce que je vais transmettre à mes enfants, eh bien, il n'y aura plus d'eau d'ici 30 ans. Donc là, maintenant, c'est à nous de jouer. Ce qui n'avait aucun intérêt il y a à peu près 20 ans pour la majeure partie de la population. Il y a 5 ans, ça a un petit peu changé. Et là, aujourd'hui, je pense que les gens sont prêts. Voilà. Pourquoi ils sont prêts ? Parce que moi, j'étais à beaucoup de manifestations, je veux dire, ces dernières années. Et je voyais que mes enfants me disaient « Ah, est-ce que tu as bien marché ce samedi ? Est-ce que ça t'a apporté quoi ?» Alors c'est vrai que ça les faisait un petit peu sourire. Et puis là, au mois de septembre, il y a eu la marche pour le climat. Et bien cette fois-ci, ce sont mes enfants qui m'ont demandé de venir. Moi j'en ai 5. Hein. Donc si l'énergie vient maintenant des populations plus jeunes, je pense que nous sommes sur le bon chemin.
Il s'appelait Laurent Poli, c'était un élève garde forestier qui faisait partie du maquis d'Achères pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le 4 juillet 1944, avec des compagnons, ils sont tombés dans un traquenard mis en place par les Allemands et ils ont été transférés à la prison devant laquelle on va passer. Torturés et finalement exécutés, 22 résistants, dont des forestiers, des bûcherons, des poètes aussi, le plus jeune avait 16 ans. Et ils ont été exécutés le 21 juillet et dans une deuxième vague, le 14 août, 12 autres résistants ont été exécutés. Et pour nous, ça symbolise la résistance qu'il faut parfois avoir vis-à-vis en temps de guerre, mais aussi parfois en temps de paix, quand on est confronté à des politiques complètement absurdes. Et lui, il symbolise ce jeune forestier qui avait à peine 20 ans, cet esprit de résistance, et souhaitons que beaucoup d'autres forestiers qui vivent des difficultés très grandes actuellement, du fait de la crise sanitaire des arbres, de la politique de l'établissement, des incertitudes sur l'avenir de cet établissement, résiste, soit solide, résiste et ne flanche pas comme un de nos camarades dont on a appris le suicide hier. Alors évidemment, on ne peut pas dire que ce soit forcément lié aux conditions de travail, Mais malgré tout, on sait très bien qu'il y a une crise très lourde à l'Office national des forêts, qu'il y a déjà eu plus de 45 suicides depuis un certain nombre d'années, et qu'aujourd'hui, la fragilité, elle est là pour beaucoup de forestiers, en voyant des forêts qui sont totalement dévastées par des crises sanitaires comme on connaît, et en voyant que face à ça, l'État ou l'établissement ne réagit pas comme il devrait. Voilà.
Pour mieux comprendre l'histoire et les objectifs du réseau SOS Forêt, écoutons Fred Bedel, forestier à l'ONF en Lorraine et membre du syndicat Snupfen. Il s'agit d'un extrait de son introduction aux assises nationales de SOS Forêt qui ont donc eu lieu les 23 et 24 octobre au domaine de Villarceau, dans le Val d'Oise, au nord de Paris.
En gros, c'est en 2010, donc ça ne nous rajeunit pas, que deux syndicats forestiers de l'ONF, le Snupfen solidaire dont je suis membre et la CGT Forêt, se sont dit, pour s'en sortir au niveau de la forêt publique, parce qu'il y avait des coupes sombres dans les effectifs et vraiment une perte de sens sur l'action qu'on mène, pour s'en sortir, il faut au moins qu'on garde la sympathie du public, que dans nos campagnes, les petits hommes en vert ont encore. Mais il faut aussi qu'on explique, parce que notre direction explique très très mal ce qu'on fait. Donc il y avait un gros challenge qui était de faire comprendre ce que font les forestiers en forêt. L'idée c'était déjà ça, faire comprendre ce qu'on fait. Et puis voir où sont nos alliés. À l'époque il y avait une ligne de démarcation assez nette entre par exemple au sein de FNE, la direction de FNE centrale et les fédérations régionales. C'était l'époque du produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité. Et nous, c'était aussi notre point d'accroche principal avec la direction, outre les suppressions massives de postes, les séparations de services qui faisaient en sorte que l'ONF dysfonctionnait de plus en plus. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette ligne de démarcation. Et en fait, essayer de trouver qu'il y avait des contre-pouvoirs, à la fois au sein de grandes fédérations de l'environnement, mais tout un tas d'associations, des riverains de forêt, des usagers de forêt qui commençaient à être inquiets à voir ce qui se passait en forêt. Et puis nous, qui étions complètement pris entre les injonctions de notre direction, la plupart on est encore fonctionnaires à l'ONF, on se doit d'obéir, mais à des choses qui, parfois, nous révulsent profondément. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une bouffée d'oxygène, et puis c'est notre survie de forestier de terrain qui est en jeu, aussi bien chez les privés que chez les publics, la bonne gestion durable, qu'on sait vraiment faire en France, qui est en danger. Vous connaissez tous les enjeux actuels de biodiversité, de climat, etc. La forêt, on le dit sans arrêt, c'est mis sur les documents préparatoires, elle est à la croisée des chemins, au pire moment, c'est-à-dire que soit on prend le bon embranchement, le bon aiguillage, et la forêt, ça va être, pas reprendre des slogans politiques, mais oui, une chance pour la France, une chance pour le monde, c'est clair, c'est vraiment un Eldorado pour reconquérir notre relation à la nature et peut-être échapper au plus grave qui peut nous attendre au niveau écologique. Mais on peut aussi prendre la voie inverse, et là, on aggrave tout avec la forêt. On aggrave le changement climatique, on aggrave la désertification des territoires, on aggrave plein de choses comme ça, si on court à la sylviculture industrielle. Donc voilà, on est vraiment à un moment très important. Je vous disais, le collectif SOS Forêt France, il est un peu né comme ça en 2010, par des assises, donc on peut dire que c'est presque les troisièmes, un peu dans ce genre-là qu'on avait fait dans les Vosges, en marge du Festival international de géographie. Et donc, on a gagné en crédibilité, le collectif SOS France a acquis une dimension nationale en 2011, c'est allé assez vite. Et on a fait les premières assises il y a 4 ans, en 2015, presque jour pour jour, à Gardanne. Gardanne célèbre, hélas, pour sa centrale, enfin son projet de centrale à biomasse. Ça avait fait un peu grincer, là-bas, le préfet qui avait fait des remontrances au proviseur du lycée agricole qui accueillait un événement aussi dangereux. Et c'est ce à quoi nous exhortait Raoul Monténégro, le prix Nobel alternatif d'Argentine, qui était venu à Gardanne. Il nous avait dit « Je trouve que les forestiers français, vous n'êtes pas assez dangereux. » Vous n'inquiétez pas encore suffisamment les politiques. Je crois que depuis 4 ans, on est devenu plus dangereux, dans le bon sens du terme. En 4 ans, on peut dire que le collectif SOS Forêt France a bien grandi. Il y a maintenant des collectifs SOS régionaux qui sont créés dans plusieurs régions. Pas loin d'ici, il y a SOS Forêt Île-de-France, il y a Hauts-de-France, il y a Lorraine, il y a Bourgogne, il y a Franche-Comté, il y a Pyrénées, il y a Forêt du Sud, il y a Cévennes. Est-ce que j'en oublie ? Je ne crois pas. Actuellement, donc, et les assises d'aujourd'hui s'inscrivent dans ce cadre-là, une proposition de loi dite citoyenne, c'est-à-dire qu'on attend des propositions de nous tous, en tant que citoyens, en tant que connaisseurs ou amoureux de la forêt. Et donc, une grosse partie du travail ces deux jours, c'est de finaliser, d'affiner des propositions qui pourront être dans un projet de loi, ce qui est très original comme démarche, parce que jusqu'ici, c'est toujours le dernier chapitre d'une loi agricole, la forêt. Nous, on est justement au collectif SOS Forêt France, on emploie toute notre énergie à expliquer qu'il y a une grosse différence de cycle, de longueur de cycle, d'utilisation historiquement, traditionnellement, des forces naturelles chez les forestiers qui n'existent pas toujours dans l'agriculture ou qui a été perdue et qui se retrouvent. En tout cas, la forêt est bien un monde à part et vu les enjeux qui planent sur la forêt, mériterait déjà beaucoup, beaucoup plus de soutien public. On ne va pas vous faire pleurer avec le budget de l'ONF ou celui des CRPF en forêt privée, mais c'est vraiment ridicule par rapport aux enjeux auxquels on doit faire face. Donc voilà, il s'agit de réveiller les politiques, de réveiller l'opinion publique sur les enjeux de la forêt dans un contexte où vraiment la forêt, ce sera le meilleur ou le pire. Pour l'instant, c'est le pire. C'est le pire à l'ONF, privatisation, démantèlement. C'est le pire dans les CRPF, j'en ai parlé, où là, ils n'ont plus les moyens ni humains ni même institutionnel de faire barrage à des projets de plan de gestion complètement aberrants sur des immenses surfaces dans le Limousin, où on est carrément dans le délire, ou dans les Landes, ou dans le Morvan, où on fait tout sauf de la gestion durable. Et puis, il y a quand même un plan de gestion qui dit c'est de la gestion durable. Donc, il y a vraiment des choses affolantes, et qui, si on le couple aux appétits industriels et même financiers, à la spéculation sur la biomasse, au problème du soutien massif de l'Union européenne sur la biomasse, font craindre que ça se transforme en Amazonie, la forêt française. L'Amazonie, dans ce moment-là, là où ça brûle. Donc voilà, il y a ça qui est très grave. Mais il y a des points très, très positifs. C'est qu'au moment où la filière a voulu lancer une grande campagne d'intoxication sur la silviculture industrielle, ça coûtait 10 briques, je crois. Pour moi, c'est le bois. Au même moment, il y a notre ami François-Xavier Drouet qui a sorti un film. Ils ont remballé leur campagne parce que le film a fait un tabac, en France et même à l'étranger. On est sûrement plusieurs dans la salle à avoir animé des conférences débats autour du film. Le 1er novembre, je lance une petite annonce comme ça pour dépanner Françoise. S'il y en a qui veulent aller dans les Vosges du Sud, enfin, ou dans la Haute-Saône du Nord, à Auxelles-Haut, il y a une conférence débat où je ne peux finalement pas aller. S'il y en a des volontaires, Françoise Price. Voilà, pour animer une conférence débat sur le temps des forêts. Ça ne coûte rien d'essayer. Donc voilà, il y a eu beaucoup de bruit autour de ce film. Et puis, on a fait coïncider, nous, forestiers de l'ONF, la sortie du film avec la marche pour la forêt d'octobre dernier, qui a été un succès qui nous a dépassés. 38 jours de marche, une clôture avec le manifeste de Troncay que vous voyez affiché là, un soutien encore plus élargi que le SOS Forêt sur des propositions de politique forestière, assez générique, mais qu'on va reprendre pendant ces deux jours. Donc on a de gros soutiens. Derrière le film de François-Xavier, il y a eu le livre de Gaspard Dalens qui va encore un peu plus loin dans la démonstration. Grâce à Gaspard, on a approché la députée Mathilde Panot qui a pris l'initiative de ce projet de loi citoyenne sur la forêt. Et donc là, c'est le travail en cours. Donc on peut dire que là, la vérité a changé de camp. C'est-à-dire qu'au niveau de la bataille des idées, on entendait encore plein d'âneries il y a quelques années. Là, avec les changements climatiques et tout, les tenants de la silviculture industrielle, agronomique, hyper-interventionniste, ceux qui disent « on a trouvé l'essence du futur et on va la planter partout à la place des forêts existantes », on les entend beaucoup moins ces derniers temps. Beaucoup, beaucoup moins. Parce que toutes les évidences scientifiques un peu sérieuses, tous les témoignages que nous tous, ici, on peut faire remonter du terrain, vont exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que la forêt, qui est adaptée aux enjeux qu'on doit affronter maintenant et qu'on doit même contrer, qu'on doit atténuer, eh ben c'est la sylviculture continue, c'est des forêts mélangées, c'est des arbres de plus en plus gros. Tout ça est bon pour tous les enjeux, carbone, biodiversité, etc. Donc on est dans le vrai. Tous ici, qui estimons qu'on doit pousser cette sylviculture un peu plus naturelle, continue, on est dans le vrai. Et on va beaucoup parler de bien commun aussi. Le gros enjeu, c'est d'associer la société tout entière à nos problématiques. Comme disait, c'était encore Raoul Monténégro, il y a 5 ans, les forestiers, vous devez devenir des écosystémiers. Il y a beaucoup de collègues qui ont fait tilt à l'ONF sur ces notions-là, et vous êtes les interprètes de la biodiversité auprès de la société tout entière. Alors les forestiers, je vous inclus tous là-dedans. On est tous ici, à notre manière, des forestiers résistants. On va faire mieux que résister, on va faire des contre-propositions. C'est l'objet de ces 2 jours. Et je vous remercie de votre attention parce que j'étais un petit peu long.
Pour conclure cette émission, écoutons encore Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, qui a pris l'initiative de créer une commission d'enquête parlementaire et citoyenne sur les forêts en France.
Alors, la vraie personne qui est à l'origine de cette commission d'enquête, c'est Gaspard Dalens. Donc, Gaspard Dalens, c'est un journaliste et un écrivain que je connaissais depuis la lutte de Bure, donc d'enfouissement de déchets nucléaires sous terre, sur lequel qu'on combat très fortement. Et alors Gaspard a écrit un livre qui s'appelle « Main basse sur nos forêts », que j'ai lu, qui est excellent et que j'invite tout le monde à lire. Et Gaspard me parle du livre et me dit « il faudrait vraiment faire quelque chose dessus ». Et c'est là qu'on a commencé à réunir différents acteurs autour de la table, donc l'intersyndicale ONF, plusieurs associations, des collectifs aussi citoyens qui rachètent des forêts. Donc on met plusieurs personnes autour de la table. Et moi, je cherche aussi du côté parlementaire pour avoir différents parlementaires, pour qu'on ait un travail collectif sur cette question. Donc les premières réunions, elles ont commencé en juin. Et c'est à partir de là qu'on construit collectivement comment est-ce qu'on va faire cette proposition de loi. Et alors arrive d'abord l'idée d'avoir des auditions avec des experts, des professionnels, des syndicalistes, des gens des associations. Ce qui permet de récolter du matériau politique de proposition. Et puis ensuite arrive la proposition que les assises des forêts soient une étape importante co-construction de la loi, puisque il y a eu 4 ateliers législatifs aux assises, donc sur lesquels les plus de 100 professionnels qui étaient là ont pu croiser leurs regards sur des propositions qu'il faudrait inscrire dans la loi. Donc ça, pour nous, c'est comme de l'or, quoi. C'est passionnant parce qu'il y a à la fois des propriétaires, des entrepreneurs forestiers, des naturalistes, des experts qui, eux, vont tous donner leur avis et qui permettent d'avoir un peu une vision globale d'un modèle des forêts qu'on prône.
Juste pour comprendre encore, commission d'enquête. Il y a des commissions d'enquête, disons, officielles, créées par l'Assemblée, avec un certain soutien, en tout cas peut-être de personnel ou peut-être financier, je ne sais rien. Mais là, il s'agit d'autre chose.
Alors là, c'est une commission d'enquête citoyenne qu'on a montée nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que, à l'Assemblée, on va dire que, surtout sous l'ère d'Emmanuel Macron, l'Assemblée a assez peu de pouvoir et les parlementaires d'opposition encore moins. C'est-à-dire que lorsque on fait une demande, notamment de commission d'enquête, donc la commission d'enquête, qu'est-ce que ça a comme chose bien ? C'est que les gens sont obligés de témoigner sous serment, donc ils ne peuvent pas mentir, donc ça pour nous c'est très important. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des moyens humains qui sont mis à disposition par l'Assemblée, notamment le fait qu'il y ait un administrateur, donc un juriste, qui puisse nous aider à écrire les recommandations, les propositions de loi. Donc c'est des moyens d'enquête, on va dire, pas extraordinaires, mais assez importants. Sauf qu'un groupe d'opposition, il n'a droit d'avoir une commission d'enquête qu'une seule fois par an. Donc, bien évidemment, bon, on est présente à chaque fois, on a un siège hein, dans les autres, mais bien évidemment, ça pose des problèmes pour choisir. Donc, à un moment, on se dit qu'il ne faut pas qu'on attende, parce qu'il y a trop de sujets sur lesquels on a envie de travailler. Donc, on le fait aussi en dehors, en disant, on s'appuie du coup sur des juristes qui sont spécialistes du code forestier, qui sont bénévoles, et on le fait, nous, avec nos moyens, et qui est aussi une manière de dire qu'on n'attend pas les institutions pour construire la loi.
Oui, ça permet un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas avec une commission d'enquête plus officielle. Je veux dire, il y a toute une partie peut-être de relations avec des associations, des syndicats qui est plus fort.
Ah bah déjà ça nous permet de commencer notre commission d'enquête à l'envers de celle qui existe d'habitude, c'est-à-dire qu'on commence par les acteurs qu'on n'entend jamais. On commence par des acteurs qui portent un engagement autour des forêts comme bien commun. Et ça, pour nous, c'est super parce que ça pose les enjeux directement. Donc sur ce point-là, c'est agréable parce qu'effectivement, une commission d'enquête, d'habitude, on a un peu des obligés. Bon, par contre, c'est vrai qu'avoir, si on pouvait, par exemple, avoir le ministre qui venait témoigner sous serment dans le cadre d'une vraie commission d'enquête, ça pourrait être super. Mais vous inquiétez pas, on ne va pas le lâcher quand même.
Et réaction de vos collègues ?
Alors, réaction de nos collègues, bon, il y en a plusieurs de différents groupes qui participent à cette commission d'enquête citoyenne parlementaire. Pour l'instant, à La République En Marche, personne n'y participe. Il y a notamment une parlementaire de La République En Marche qui a été assez investie sur une forêt dans le Nord, qui est Anne-Laure Catelot, qui nous a dit qu'elle trouvait ça super intéressant, mais qu'elle voulait d'abord proposer au ministre... faire des recommandations au ministre et que si ça ne fonctionnait pas, elle venait avec nous. Bon, ça, c'était il y a déjà 2 mois.
Bon. Si je ne me trompe pas, elle a été très choquée par des coupes rases dans sa région.
Exactement.
Et qui a essayé de faire des démarches par rapport à ça.
Exactement, c'est exactement ça. Et donc, comme c'est une des réflexions que nous, on a dans la proposition de loi autour, justement, de cette limitation forte des coupes rases, ça rentre en résonance, effectivement, par rapport à ce qu'elle, elle a fait dans sa région. Bon, pour l'instant, elle ne vient pas. On l'accueille avec plaisir quand elle veut, mais il y a une frilosité de la part de la majorité, c'est évident, y compris parce qu'ils savent que le gouvernement, on est dans un moment avec un gouvernement qui n'écoute personne. Vous avez beau avoir des associations, des professionnels, des syndicalistes qui proposent des choses, qui ont aussi une vision alternative de ce qu'on pourrait faire en disant « on n'est pas obligé de vivre comme ça tout le temps, il n'y a pas de fatalité à vivre comme ça ». Ce gouvernement n'entend rien. Jamais. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est important, nous, qu'on montre qu'il existe une alternative. Parce que sinon, cette alternative, elle est cachée, elle est criminalisée, comme on voit, je parlais des jeunes, par exemple, qui décrochaient des portraits d'Emmanuel Macron, mais il y en a beaucoup d'autres, des syndicalistes. Il faut voir la souffrance que c'est, notamment pour les agents de l'ONF aujourd'hui, autour de la perte de sens, autour des suicides qu'il y a, autour des conditions de travail, des résistances aussi qui existent. Donc, pour nous, c'est aussi important de construire jusqu'à un point très sérieux, c'est-à-dire jusqu'à dans la loi, comment est-ce qu'on ferait ce contre-modèle au modèle qui existe en disant oui, on peut faire autrement et on vous le montre concrètement.
Donc juste pour rappeler, je crois qu'il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a Génération Écologie, quelque
Tout
chose
à fait.
Comme
ça. Ça c'est Delphine Bateau, et puis il y a un écologiste aussi.
D'accord. Et curieusement, enfin, je pourrais imaginer que ce n'est pas impossible de trouver un écho favorable, en tout cas intéressé de certains républicains, parce qu'il y a un pôle très rural, hein, fait chez les républicains, et des gens très attachés à leur paysage, à leur forêt, etc. Donc c'est peut-être à espérer.
Oui, mais moi j'espère vraiment que cette commission d'enquête, elle va s'élargir aussi beaucoup plus largement que les partis et les mouvements politiques qui sont actuellement représentés. Je ne sais plus qui me disait dans une audition, les arbres, c'est ni de gauche ni de droite, ça nous concerne toutes et tous. C'est exactement ça. Et je pense que même avec des gens, des républicains, on peut trouver des points d'accord sur des aberrations qui sont faites actuellement à certains endroits et qui devraient être interdites ou réglementées ou un changement de fiscalité sur des choses. Je pense que tout ça... C'est des choses d'intérêt général sur lesquelles on peut avancer effectivement avec des personnes de différentes étiquettes. Et c'est ce qu'on essaye aussi de mener.
Très bien. Pour conclure, peut-être un peu le calendrier. Vous avez déjà fait, je crois, 3 ou un certain nombre d'auditions. Il y a aussi des visites sur le terrain. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ?
Alors on a fait 3 journées d'audition, on a fait une commission d'enquête délocalisée contre un grand projet inutile à Orléans, dans la forêt de Lintingy. Donc il y a les assises de la forêt qui vont là encore nous aider à sortir beaucoup de matériaux pour cette proposition de loi. On a encore 1 à 2 journées d'audition à faire et puis 4 visites sur le terrain, notamment celle dans le Morvan qui est prévue le 16. Et l'idée, c'est qu'ensuite, début 2020, on ait une proposition de loi. À partir du moment où on aura toutes les propositions politiques, on travaillera avec des juristes pour le traduire dans la loi. Et peut-être avec des débats contradictoires à imaginer en dernier stade de cette proposition de loi. Et voilà, après, on aura une proposition de loi. Il faudra réfléchir justement comment on permet à tout le monde de se l'approprier, de la discuter, d'être d'accord, pas d'accord. Mais en tout cas, que cette proposition, à partir de là, elle puisse vivre aussi plus largement que...
Techniquement, un groupe de députés de trois groupes comme ça, s'il n'y en a pas d'autres, peuvent déposer un projet de loi ou non? Parce que ça aussi, c'est limité, j'imagine, le nombre de...
Alors, on peut déposer la proposition de loi. Le problème, c'est que si le gouvernement ou le président de la majorité de l'Assemblée, donc La République En Marche, ne décide pas de la mettre à l'ordre du jour, elle restera dans un placard. Un groupe d'opposition, il a un jour dans l'année où il a le droit de mettre à l'ordre du jour une proposition. Donc on peut essayer dans ce cadre-là, dans une de nos niches, de le mettre. Ce qu'on appelle une niche parlementaire. Donc là, quand on décide l'ordre du jour. Mais sinon, il faut continuer le rapport de force, c'est évident. Parce qu'il y a effectivement un risque que cette proposition de loi, le ministre la garde bien précieusement dans son bureau en sachant qu'il n'y aura rien à faire derrière. Donc, d'où tout l'enjeu aussi de penser l'après, de comment ça nous aide aussi dans le rapport de force pour continuer.
Très bien, merci beaucoup.
Merci.
C'était SOS Forêt à Fontainebleau, une émission de Radio Zinzine. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pourrez la trouver sur le site de Radio Zinzine, c'est www.radiozinzine.org. Toutes les musiques qui ont accompagné cette émission sont du groupe portugais Danças Ocultas.